Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue au culte. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre. Prenez Jean 1. Jean au chapitre 1. Vous voyez, Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en chair. C'est quelque chose à comprendre impérativement. Parce que une question essentielle qui est à poser est qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Et s'il est venu faire quelque chose, pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a réussi à le faire? Est-ce qu'il a eu la victoire ou pas? Et quel est l'objectif final, la finalité de ce que Jésus est venu faire? Écoutez bien. Hein? Donc si Jésus est venu sur terre et il est venu, pourquoi il est venu? Est-ce qu'il a remporté ce qu'il est venu chercher? Est-ce qu'il a réussi ce qu'il est venu faire? Est-ce que la victoire est gagnée ou pas? C'est des questions qui sont essentielles pour un enfant de Dieu. Donc Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Si on en voit un petit peu juste avant. Si on va un peu après, excusez-moi. Verset 14. La parole est devenue chair, littéralement a été faite chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. Donc la parole de Dieu est une gloire. Elle possède une gloire. Elle possède une gloire, vous comprenez? La parole de Dieu a une gloire. Et j'aimerais qu'on observe un petit peu ce qui s'est passé, parce que si Jésus est venu sur terre, il y a une raison. Prenez 1 Jean, chapitre 2, et verset 6. Jean chapitre 2 et verset 6. La Bible dit, celui qui dit demeurer en lui, donc en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme lui a marché. Donc, Jésus-Christ a marché d'une certaine manière. Ça ne parle pas du déplacement des pieds, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il dit marcher, ça veut dire fonctionner comme Jésus-Christ a fonctionné sur terre. Pourquoi? Regardez, il y a un verset qui est très utilisé dans les églises, qui s'utilise pour dire « Dieu ne partage pas sa gloire ». Vous avez déjà entendu? Ouh, le verset dit avec personne, je ne vais partager ma gloire. Vous voyez, c'est un verset qui est tiré des Écritures de l'Ancien Testament. Mais si on prend dans le contexte, il parle de partager sa gloire avec des idoles. Vous voyez? Et donc, ça a été utilisé pour dire, Dieu ne partagera pas sa gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. Et ça donne cet aspect un peu pseudo-spirituel que beaucoup aiment beaucoup se donner, qui d'ailleurs n'a aucun sens biblique. C'est assez marrant justement parce que on peut se donner des airs spirituels très forts et très bien travaillés, tout en n'étant absolument pas spirituel. Ça veut dire quelque chose, Néhémie, dans la Bible? C'était Néhémie ou Esdras, mais il me semble que c'était Néhémie. La Bible dit qu'il allait voir un gars qui se prétendait être prophète, et le gars a fait le prophète. C'est-à-dire qu'il a fait tous les trucs qu'à l'époque on considérait comme étant prophétique. Donc il a fait des allusions, il a sûrement fait des espèces de pseudo-rituels et tout ça. Alors que la Bible dit qu'il avait été payé par les ennemis pour prophétiser un mensonge. Donc vous voyez, on peut avoir des allures de chrétien sans en être vraiment hein, profondément. Vous voyez? On peut faire tous les procédés, tous les processus que le chrétien fait sans en être vraiment. Hein. C'est possible. Donc la Bible dit que de la manière dont Jésus marchait, nous devons aussi marcher. Vous suivez jusqu'ici? Vous êtes concentrés, hein? Donc, comme Jésus marchait, nous devons marcher parce que nous demeurons en lui. Amen. Donc, il y a cette idée, comme on a déjà dit, qui est fausse, hein, que tant qu'on est dans ce corps, on va pécher, que tant qu'on est dans ce corps, on aura des maladies, que tant qu'on est dans ce corps, on va avoir des chutes. C'est faux, ça. Sachez-le. C'est faux, faux, faux. Christ a prévu que par son esprit, vous marchiez comme lui marchait. Amen. C'est beau, hein, c'est profond surtout, hein, parce que cette idée, et c'est le problème, c'est que tellement de gens ne savent pas cette vérité qu'ils ne la vivent pas. Et on doit grandir là-dedans. Donc j'aimerais qu'on prenne 1 Jean chapitre 1. Waouh. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de la vie. Donc là, il dit, on a touché Jésus, on l'a vu, on l'a entendu. On l'a contemplé et ce Jésus-Christ était la parole de la vie. Vous vous rendez compte? C'est beau, hein? Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Dites Jésus-Christ est la vie éternelle. En lui, j'ai la vie. En lui, j'ai toute suffisance. En lui, j'ai tout avancement. Vous le croyez? Je voulais pas que les gens entendent. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on continue avec Jean chapitre 13 et verset 5. Jean chapitre 13, verset 15. 15. Jean chapitre 13, 15. Donc là, dans le contexte, Jésus lave les pieds de ses disciples. Hein, mais il donne une loi générale que j'aimerais qu'on puisse lire. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Donc, on est censé suivre l'exemple du Christ. Jusqu'ici, vous suivez? Donc, vous suivez l'exemple du Christ, pas l'exemple des apôtres. Et ça, c'est une erreur de beaucoup, beaucoup. C'est qu'ils regardent les Actes des apôtres, qui est un livre biblique, comme étant une source de vérité absolue. Alors c'est une vérité absolue, tout ce qui est écrit dedans est juste. Mais les apôtres n'ont pas agi en pleine maturité en Christ. Ça vous dit un exemple quand ils disent au Seigneur, étends ta main et qu'il se produise de grands miracles par ici. Et la Bible dit que la terre trembla et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Un enfant croyant, un enfant de Dieu croyant, fort et affermi, ne demande pas au Seigneur d'étendre sa main du ciel. Même l'apôtre Paul a dû corriger ça une fois. Vous voyez? C'est une idée qu'on a, qu'on doit demander au Seigneur d'agir depuis l'extérieur. Et donc, ils étaient jeunes dans leur foi, ils étaient jeunes dans leur ministère. Ça faisait à peine, même pas 2 mois que Jésus-Christ était monté au ciel. Et donc, du coup, ils disent ça au Seigneur, étends ta main qu'il se fasse de grands et puissants prodiges. Et Dieu, dans son amour, répond à la prière. Mais nous, on sait que on est beaucoup plus mature que ça, vous voyez, en Christ. Et donc, les actes des apôtres sont les actes d'une église, certes vigoureuse, mais aussi très immature. Par exemple, ils avaient encore un débat de si oui ou non on pouvait avoir des gens non juifs dans l'église. C'était une question très immature, ça. D'accord? Et l'apôtre Paul, il adresse ça à maintes et maintes reprises. D'ailleurs, le plus grand apôtre de toute l'histoire de l'humanité pour l'instant, c'est l'apôtre Paul, de loin. Et pourtant, lui, dans les Actes des apôtres, il est très peu mentionné au début. Très peu. On apprend juste de lui après, n'est-ce pas? Et donc, du coup, l'apôtre Paul a conceptualisé l'idée de la grâce généralisée et accessible à tous et non seulement aux juifs. Et donc, l'apôtre Paul, vous voyez, a atteint un niveau supérieur. Vous suivez toujours? Prenez 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Verset 21, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc vous êtes censé suivre les traces du Seigneur. Amen. Et après, il précise encore. Il n'a pas commis de péché. Oh, vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé commettre de péché. Vous n'êtes jamais censé commettre de péché en tant qu'enfant de Dieu. Et le problème, c'est que l'Église n'a jamais été enseignée sur cette vérité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas commettre de péché. Un enfant de Dieu qui commet des péchés est un enfant de Dieu qui est immature dans sa foi. Complètement immature. Et vous savez, c'est pas de la condamnation quand je dis ça. Au contraire, c'est pour dire, voilà, vous avez de quoi faire. Il y a de quoi travailler. Il y a de quoi avancer dans ces choses. Amen. Regardez, après, il précise. Il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voyez? Après, il précise que Jésus-Christ a porté nos péchés et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, il dit, vous devez marcher dans les mêmes étapes, dans les mêmes pas que le Seigneur Jésus. Après, il précise, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel aucune ruse n'a été trouvée. Vous suivez jusque-là? Donc dites, un enfant de Dieu, mature, ne pêche pas. Dites, je ne pêche pas. Vous devez y travailler. Vous ne pêchez pas. Vous savez que pêcher, ça veut dire manquer une cible, ça veut dire rater quelque chose, littéralement. Vous êtes censé être dans une réussite absolue, constante et toujours vers l'avant et vers le haut. Le chrétien ne rate pas et vous devez avoir cette image de vous afin de pouvoir la vivre et de pouvoir la manifester d'une manière illimitée pour vous et votre monde. Regardez ça, prenez 1 Jean toujours, 4 verset 17, mais vous devez connaître ce genre de choses par cœur. Vous devez avoir une révélation profonde de ces versets-là parce que la Bible est la parole de Dieu et elle explique ce que Christ est venu faire, et elle dessine une image de qui vous êtes, le vrai vous. Vous savez qu'il y a un vrai vous, hein. Il y a un vrai vous. Et le vrai vous, il est dessiné par Dieu. Vous avez trouvé 1 Jean 4, 17. La Bible dit, « C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tel Jésus est maintenant, tel vous êtes dans ce monde. Et vous devez commencer à voir cette réalité et commencer à la vivre surtout. Vous voyez? Vous devriez être très réjouis d'entendre ça. Hein? Tel Jésus est, tel vous êtes dans ce monde. Et tel Jésus est maintenant, hein? Pas tel il était quand il était sur terre. C'est tel Jésus est maintenant, tel vous êtes maintenant dans ce monde. Dites tel Jésus est, tel je suis. Prenez Jean 17, 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Dieu vous a donné sa gloire. Dieu vous a donné sa gloire. Vous suivez? Écoutez bien par ça, j'aimerais pas que vous soyez distrait. Dieu vous a donné sa gloire. Et après, il précise, pour qu'il soit un comme nous, nous sommes un. Donc, Christ vous a donné sa gloire afin que vous ayez part à la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau concret pour vous? Pourquoi est-ce que le chrétien moyen est tellement... C'est un truc qui me pèse beaucoup. C'est un sujet de prière. Je ne comprends pas pourquoi le chrétien moyen est si flasque. Vous savez que le chrétien moyen en est encore à demander pardon au Seigneur pour ses péchés parce qu'il a encore tombé cette semaine dans le même péché qui tombe depuis des années. Ce n'est pas normal, vous comprenez? Ce n'est pas normal que l'enfant du roi, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas, ayons de telles bêtises, de telles peurs, vous savez, de telles gamineries, excusez-moi du terme, hein, c'est pas insultant quand je dis ça, mais pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu se laisse balancer de gauche à droite par des trucs aussi stupides que je ne sais pas, vous savez, c'est un truc quand je faisais les camps de jeunes à l'église, on avait des camps de jeunes, j'avais fait un camp qui s'appelait Venn, à l'époque je pense que ça dit quelque chose aux gens, hein. ligue pour la lecture de la Bible, c'était un camp génial. C'est le seul camp chouette que j'ai eu en étant enfant. attends, les camps bibliques, hein. Donc, vous voyez, je regardais un petit peu le programme des plans du camp de jeûne de l'ambassade du Christ, de Love World spécifiquement, en Afrique du Sud. Il y a un camp de jeûne, c'est jusqu'aux 22 ans, je crois, maximum. Et je voyais ce programme du camp de jeûne et je me disais, oh, c'est seulement dans mon enfance, il y a un truc pareil qui existait en Suisse, quoi. Vous savez ce que c'est le programme? Alors, beaucoup de fun, bien sûr. Ils vont faire du foot. Mais genre, prière en langue pendant 1 heure le matin. Ils commencent tous les matins, prière en langue pendant 1 heure. Vous voyez? Et quand je voyais ce camp de jeûne, si vous avez l'occasion de faire le camp de jeûne en Afrique du Sud, hein. Oh là là. Un autre niveau, ils commencent par la prière en langue 1 heure tous les matins, ce que j'ai compris. Comme ça, t'imagines, c'est chouette, Noé, hein? Être conditionné comme ça, prier en langue pendant 1 heure. Ensuite, il y a l'étude de la Bible jusqu'environ 2-3 heures. Beau, hein? Ensuite, toute l'après-midi, ils font les foufous, ils font les machins. Le soir, rebelote, louange, étude de la Bible et prière. Et après, ils finissent le camp en beauté à l'école de guérison. Vous voyez? C'est beau, hein? Ça, c'est beau. Ça, c'est une formation où on enseigne aux jeunes d'être dans la gloire de Dieu. Parce que nous sommes cette gloire, vous comprenez? La Bible dit que tel il est, tel nous sommes, et qu'il nous a partagé sa gloire afin qu'on soit unis avec lui. C'est sérieux. Dites, c'est sérieux. Oh, alléluia. C'est pour ça que vous devez être corrigés. Voyez, prenez vite 2 Corinthiens 3, 18. Oh, alléluia. C'est pour ça qu'on doit être corrigé dans cette parole. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup, vous savez. C'est comme une saine souffrance en bien. De voir tellement de chrétiens être explosés au sol comme ça. Excuse-moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez que le chrétien moyen, c'est Joachim, ou même pas moi, parce que moi, je vous forme à être dans la parole. Amen. Dites, je suis dans la parole. Et j'avance. Il y a Natacha qui me disait qu'elle parlait avec des chrétiens qu'elle connaît. Et ils étaient choqués qu'on prie ensemble autant. En gros, c'est ça. On est des enfants de Dieu ou pas? C'est normal de prier. Le chrétien moyen, c'est... Vous savez, comment est-ce qu'on peut arriver vers Dieu puis faire Seigneur, pardonne-moi? Ou comment est-ce qu'on peut voir Dieu comme juste quelqu'un qui nous a donné un petit coup de pouce le temps que, oh, on passe cette pauvre vie sur terre et qu'on avance avec, enfin, on arrive au ciel en rampant comme ça. C'est une horreur de penser Dieu comme ça. Horreur. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant pour les gens qui sont nés de nouveau dans notre ministère, parce qu'ils n'ont pas à désapprendre tous ces trucs faux. C'est chouette ça plutôt, hein. On arrive, pouf, la parole de Dieu dit ça. Ok, nice. Et ils le prennent. C'est beau ça, hein, n'est-ce pas, Christelle? C'est merveilleux. Et donc, du coup, vous devez être absolument refait. Regardez ce que la Bible dit. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne 2 Corinthiens 3. On va regarder à partir du verset. Voyons voir où c'est qu'on va commencer. Verset 7. Donc là, il va parler du ministère de la mort, ça parle de la loi mosaïque, d'accord? Il dit, Or si les ministères de la mort gravés avec des lettres sur des pierres s'est trouvé entouré de gloire au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Donc là, il dit, les enfants d'Israël, vous savez, Moïse, la Bible dit qu'il y avait une telle gloire quand il a reçu la parole de Dieu que son visage brillait. Au point qu'il a dû couvrir son visage parce qu'il brillait tellement que les gens en avaient peur. Et il dit, cette gloire, qui était le ministère de la mort, soit dit en passant, a été passagère et a été si glorieuse. Imaginez maintenant le ministère de l'esprit. Amen. Parce que la gloire vous a été partagée. Regardez. Regardez ça. Verset 19. Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Continuons. Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié. C'est bizarre, hein? On dit, sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus éminente. Donc il dit, à l'époque de Moïse, ça paraissait gros cette gloire. Mais maintenant, si on la compare à la gloire que nous, on a aujourd'hui, vous savez, il y a ces gens qui disent, nous allons prier le Dieu d'Élie, vous voyez, le Dieu de David, en parlant de Dieu. Hein? Et ils disent, oh, ce que David a vu, on veut le voir nous aussi. Ah bon? Vous voulez voir ce que David a vu? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu pouvait partir de vous, par exemple? Vous voulez voir ça? Alors, on n'est pas sous l'Ancien Testament. Hein. On n'est pas sous l'Ancien Testament. Hein. Dites, je suis sous le Nouveau Testament. C'est sérieux, c'est très sérieux. Donc là, il dit, la gloire de Moïse était si forte, mais celle que nous, on a, est tellement forte qu'elle fait pâlir, vous voyez, celle de Moïse. Vous comprenez? Continuons encore. En effet, si ce qui a été passager a été marqué par la gloire, écoutez bien, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire? Dites, je demeure entouré de gloire. Ayons donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Donc là, vous construisez votre assurance sur cette réalité. La gloire de Dieu vous a été partagée. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu à part ça? Il y a plusieurs définitions, mais il y a plusieurs choses. Mais notamment quand Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a Dieu lui-même qui passe. Et il commence à... Dieu exprime le nom du Seigneur, en fait, en passant devant Moïse. Et la Bible dit que la gloire était telle que Moïse a dû être mis sous un rocher, parce que la puissance était beaucoup trop forte. Et donc là, cette gloire-là, elle paraissait dingue. Mais maintenant, vous, nous, sous le Nouveau Testament, on a une gloire d'autant plus supérieure. Dites, ma gloire est supérieure à celle de Moïse. Mais vous le croyez, là, ou pas? Vous écoutez ce que je dis? Dites, ma gloire est supérieure à celle de Moïse. Dites, je marche dans une gloire. Je progresse dans la gloire. La gloire de Dieu m'a été donnée. Et je vis dans cette gloire perpétuellement. Et je demeure dedans. Regardez, il continue. Ayons donc une telle espérance. Quoi? Cette espérance de la gloire. Nous montrons d'autant plus d'assurance. Dites, je suis la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça influence votre vie? Pourquoi alors, si c'est le cas que tous les enfants de Dieu, nous sommes cette gloire, pourquoi est-ce qu'on ne... Regardez, il le précise. Ayez donc une telle espérance. Ayons donc, pardon, une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Le fait que le chrétien moyen, c'est qu'il n'a pas cette espérance, il ne sait pas qu'il est cette gloire. Si seulement le chrétien moyen savait quelle gloire il est, il vivrait dans une dimension beaucoup plus supérieure. Vous avez remarqué quelque chose ici? On ne fait rien pour essayer d'attirer les jeunes. Vous avez remarqué? Dans le sens, on fait des trucs cool, qui bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Des TikTok de danse chrétienne, ou je ne sais pas, des trucs explosés comme ça. Mais ça. Tu rigoles, mais ça existe, mon gars. Et pourquoi est-ce qu'on a des gens qui viennent? Bon, là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens viennent? On essaie pas, on fait pas du marketing, nous, d'église. Hein. On met pas des pubs sur YouTube pour dire qu'on est là. Vous voyez? Et il y a des églises qui ont à cœur les jeunes. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais déjà, c'est pas biblique d'avoir juste à cœur les jeunes. Hein. Un groupe de jeunes doit toujours être lié à une église, bibliquement parlant. On peut pas faire un groupe de jeunes juste de nulle part comme ça, hein, bibliquement parlant. Hein. D'accord? Mais en plus, on n'a rien de... Je sais qu'on est dans les phases de démarrage de cette église. Donc, on fait attention que l'endroit soit beau et tout, mais on n'a rien au niveau humain de très spécial à offrir. Vous comprenez ça? On n'a pas l'équipe de louange de 25 personnes avec une magnifique chorale. On n'a pas genre les meilleurs musiciens. Enfin, je suis très bon musicien, mais on n'a pas les meilleurs musiciens envoyés. On n'a pas tout un orchestre qui joue. Et pourtant, les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de grâce qui est prêchée. Les gens veulent entendre ça. Vous savez, les jeunes. En particulier, nous, les jeunes hommes, on en a marre d'entendre ces genres de pseudo-discours à l'église qui servent à rien, où on essaie de faire des trucs masculins, cool et tout, alors que derrière, il y a un besoin et un cri pour avoir des responsabilités devant Dieu. Les gens, ils en ont marre de cette pseudo-église qui est un espèce de club marrant, où on met de la bonne musique. Vous savez quoi? Si les gens veulent entendre la bonne musique, ils ont qu'à aller en boîte. D'accord? Moi, je veux des gens qui soient formés dans la parole de Dieu, qui avancent dans la parole de Dieu et qui sont des absolus. Des victorieux absolus dans tous les domaines par la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui doit vous former, qui doit former une image. Non mais quelle honte, des fois j'entends des choses, mais ça me fait entre mal au cœur et entre colère en quelque sorte. Parce que comment est-ce que des pasteurs peuvent prêcher des messages? Il y a des gens qui me disaient, on allait à l'église parce que la musique était cool, nice, mais on s'endormait quand le pasteur prêchait. Alors, je ne parle pas de s'endormir parce qu'on est exceptionnellement fatigué. Hein. Je parle vraiment de s'endormir parce que le message est nul. D'accord? Et quand ils avaient besoin de délivrance, ils ont été voir le pasteur en disant « J'ai besoin de délivrance, il y a un esprit qui me presse. » Ils ont dit « On ne fait pas ça ici. » Alors, ils reconnaissaient l'existence des démons. Ils disent juste « On ne fait pas de délivrance ici. » C'est une très grande église hein, sur Lausanne. D'accord? Et ils ont dit « On ne fait pas de délivrance. » Et donc, elle a appelé une personne qu'elle connaissait. Cette personne m'a appelé moi en disant « Elle a besoin de délivrance. » Je vais parler avec elle. Un chrétien n'a pas besoin de délivrance et je vais lui expliquer pourquoi. Et depuis, plus jamais d'oppression. Vous voyez? Oh, alléluia. Dites, je suis la gloire de Dieu. Est-ce que vous prenez ça au sérieux, à part ça, ces choses ou pas? Ok, gloire à Dieu. Verset 13. Mais nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. Donc là, il parle des Juifs en question. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'ancienne alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais lorsque on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Et après, il précise, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Juste ça, par ça. En fait, là, quand il dit qu'on regarde vers le Seigneur, le voile est enlevé, il cite l'Ancien Testament. Hein. C'est un passage de l'Ancien Testament qu'il cite. Et là, il précise, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc si jamais Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là, il vient de le dire. Hein. Le Seigneur, c'est l'Esprit dans ce passage. Donc, il dit, dans ce passage de l'Ancien Testament, le Seigneur qui est mentionné, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a des courants qui disent que l'Esprit de Dieu n'est qu'une force et n'est pas une personnalité. Non, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Regardez. Et il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, on a toujours utilisé ça pour parler de délivrance, de liberté des démons, mais ce n'est pas ce qui est écrit là. Il parle de la liberté d'être dans la gloire de Dieu, d'enlever ce voile pour que cette gloire elle soit forte. Regardez, nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ok, si maintenant on regardait un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez vous-même. Donc là, il dit, vous contemplez dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'on est la gloire du Seigneur. Donc on contemple dans ce miroir de la parole le vrai nous. Dites le vrai moi. Et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Regardez, il précise. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Donc il est en train de dire, on rentre dans un niveau de gloire merveilleux. Et on est rentré dans ce niveau en voyant cette gloire dans la parole. Et ensuite, cette parole nous transpose au prochain niveau de gloire. Et ensuite, on arrive à ce niveau, gloire à Dieu, et on est transposé dans un autre niveau. Et ensuite, un autre niveau. Et ensuite, un autre niveau. Ce qui veut dire que la croissance du chrétien dans les Écritures, dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession, dans le jeûne, dans toutes ces choses-là, est que censée aller de gloire en gloire. C'est-à-dire, vous êtes censé être à un niveau de gloire aujourd'hui, demain un niveau de gloire supérieur. Après-demain, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le chrétien n'est pas censé stagner. Et c'est pour ça, ça fait des années qu'on entend les mêmes prêches et les mêmes chansons explosées qui disent des trucs du genre « Quand je tombe, tu me relèves. » Pourquoi tu tombes? Mais c'est normal de tomber. Ah, c'est normal de tomber? Non. Ok. C'est pour ça que la Bible dit « Si nous péchons, nous avons un avocat. » Si, pas quand nous péchons. Si quelqu'un pêche, il a un avocat. Et juste avant, il dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. » Et donc vous voyez cette gloire dans la parole, voyez? Oh. Vous voyez cette gloire, vous dites « Ah, je ne suis pas censé pécher. » Ok. Donc au nom de Jésus, je monte, je ne sais pas l'escalier, mais vous voyez, à mon niveau de gloire. Vous voyez que vous êtes « Ok, je remonte un autre niveau de gloire. » Et vous avancez de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais surtout de gloire en gloire. Qu'est-ce qu'on a vu qui est toujours grandissant? Un des aspects? La foi, la connaissance, l'amour. La vision, le ministère, la gloire, la grâce. Vous n'avez pas fait dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. La gloire est un des éléments qui grandit tout le temps. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est elle-même son limite. Et nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes transposés de gloire en gloire au fur et à mesure que nous contemplons les Écritures. Donc la Bible dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas ». Pourquoi est-ce qu'on pense que Jésus... Vous savez, j'ai l'impression des fois qu'on prend Jésus pour un peu un bébé. Quand Jésus il a dit à cette femme « Va et ne pêche plus », est-ce qu'il était sérieux ou pas? Oui, il était sérieux. Donc ça veut dire qu'il est possible de ne pas pécher. Alors pourquoi est-ce que le chrétien a été conditionné à croire qu'il est normal de tomber dans le péché? Parce que si c'est normal de pécher, autant le faire. Vous voyez un peu la stupidité? Pourquoi c'est normal de vieillir et de tomber malade pour le chrétien moyen alors que la Bible dit « Il comblera le juste de beaux jours heureux ». Est-ce que c'est des beaux jours heureux d'être malade et vieux? Non, bien sûr que non. Donc pourquoi est-ce que le chrétien moyen vit hors de ça? Parce qu'il ne sait pas et qu'il ne contemple pas cette gloire. Parce qu'en regardant la parole de Dieu, vous voyez une gloire. Ensuite, vous passez à la gloire supérieure. Vous voyez de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et vous allez de gloire en gloire, constamment vers le haut, constamment vers l'avant. Et vous êtes le résultat de ce que Christ a fait à la croix. Amen. Et c'est pour ça que vous devez être tellement focus sur la parole de Dieu. Tellement dans la parole de Dieu. Vous ne laissez pas distraire. Il y aura plein de sujets de distraction, croyez-moi. Qui vont essayer de vous enlever de la parole de Dieu. Il y en aura assez, même au sein même des églises, des fois. Vous voyez? Ça arrive, hein? Beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce genre de choses. Soyez focus sur qui vous êtes en Christ et glorifiez-vous. Vous êtes censé vous glorifier. Et vous stagnez, certains. Pourquoi? Pourquoi vous stagnez toujours? Parce que vous ne contemplez pas les Écritures et voyez la gloire qui est vôtre. Et c'est pour ça qu'on aimerait vous enseigner toutes ces choses, puisque vous puissiez voir, vous savez, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est venu faire quelque chose de phénoménal. D'accord? Vraiment. Est-ce qu'il est venu faire quelque chose et est-ce qu'il l'a réussi? La réponse est oui. Et on a une affirmation absolue qu'il a réussi. C'est que Jésus-Christ, après être ressuscité des morts, est monté au ciel. Et je sais qu'on parle beaucoup de la résurrection, je suis très pour, hein. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'ascension. Parce que l'aspect final de l'œuvre du Christ, c'est son ascension, ce n'est pas la résurrection. D'accord? Parce que la résurrection, il y a des gens qui ont été ressuscités des morts. Hein. Vous savez ça, hein? Il y a Lazare, il y a le fils de la veuve, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont été ressuscités des morts. Mais il n'y a personne qui a été élevé à la droite de Dieu. D'accord? Il y a des gens qui ont été enlevés, Enoch en est un. Mais Jésus était en train de parler, vous voyez? Il a commencé à comme léviter, vous voyez? Il n'a pas fait genre pshou. La Bible dit qu'il a été élevé au ciel. Et ça, c'est la finalité absolue de l'œuvre du Christ. Et il s'est assis à la droite de Dieu et il a envoyé son esprit. C'est fait. Et donc, Christ, vous voyez, vous devez voir ça. Il y avait ses disciples. La Bible dit que même certains doutèrent quand ils ont vu Christ ressusciter des morts. Ils voyaient Jésus. Ils ont dit, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il était vraiment mort? Vous voyez? Et là, Jésus a fait la chose phénoménale que personne n'avait encore jamais fait. Pendant qu'il leur parlait, tout d'un coup, il a commencé à s'élever lentement, très lentement. Il était à 30 cm du sol. Et là, les gens disaient, oh, qu'est-ce qui se passe? 1 mètre du sol. 2 mètres du sol. Tout d'un coup, il était à 10 mètres du sol et il continuait à leur parler. Tout d'un coup, il était à 100 mètres du sol. Et là, ils le voyaient. Ils étaient une centaine. Hein. Ils l'ont tous vu se lever comme ça. Et après, il était enveloppé dans un nuage de gloire. Et un ange leur apparut. Il a dit, de la même manière dont il est parti, de cette même manière, il va revenir. Donc, Jésus-Christ revient bientôt. Et vous savez, c'est pour ça que vous devez être absolument, 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 absolument vendu aux Écritures. Arrêtez de passer à côté. Arrêtez de perdre votre temps avec des choses inutiles. Au bout d'un moment, vous allez vous tenir devant Dieu. Il n'y aura que ça qui va compter. Il n'y a que le fait que vous soyez devant Dieu. Que le fait que vous ayez vécu, ou pas votre vie pour le Seigneur. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre importance que ça. Soyez dans les Écritures. Alors, ce n'est pas dire arrêtez ce que vous faites abruptement sans raison. Hein. Mais soyez dans les Écritures, soyez formés par les Écritures, qu'elles vous concernent, vous, parce que toute la Bible parle de vous. La Bible est un message de Dieu pour vous. Dieu n'a pas besoin de la Bible. Hein. Vous avez déjà réfléchi à ça? Dieu n'a pas besoin des Écritures. Sincèrement, il n'a pas besoin. Il est Dieu lui-même, il n'a besoin de rien, il est autosuffisant. Donc la Bible a été faite pour vous, c'est un cadeau de Dieu pour vous. Dites, je grandis de gloire en gloire, au fur et à mesure que je contemple les Écritures. Donc c'est un miroir, vous voyez le vrai vous. Vous. Là, c'est pas un miroir, mais imaginons que c'est un miroir. Vous regardez comme ça dedans et vous voyez la gloire de Dieu. Oh, donc vous commencez à agir selon cette gloire. Vous savez, vous devez être très sérieux avec ça. C'est pas des blagues, amen. C'est ultra, ultra sérieux. Vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Dites, j'avance de gloire en gloire. J'avance de victoire en victoire. Je suis la réussite de Dieu en Jésus-Christ. Dites, je grandis de gloire en gloire. La gloire de Dieu m'a été donnée. Et j'avance en conséquence. Levez-vous, s'il vous plaît, on va confesser la parole de Dieu sérieusement. Dites la gloire de Dieu. Allez, soyez plus affirmatifs. La gloire de Dieu et mon identité. Et je grandis de gloire en gloire. Je suis imparable et instoppable. Je ne fais que avancer. Je suis un succès absolu. Et je grandis de gloire en gloire. De victoire en victoire. Je ne fais que avancer. Je ne vais que de l'avant et que vers le haut. Au nom de Jésus, je visualise cette gloire et j'avance en conséquence. Au nom de Jésus, je suis la victoire de Jésus-Christ. Je suis un avec Jésus-Christ. Je suis en lui. Il est en moi. À cause de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer à chanter pour Dieu. Alors restez debout, s'il vous plaît.